Dans sa série L'écran radiophonique, Radio-Canada vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre, La Spirale. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, Sévère P.
Et voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je n'aime pas taper à la machine. D'ailleurs, je serais incapable d'écrire un roman de cette façon-là. Je me contente de recopier mes écrits. Comment pourrais-je faire pour me concentrer avec le bruit de cette mécanique? Il s'étire, se lève et va à la fenêtre. Neige. Voilà. De loin, pas pour y marcher dessus. Le ciel est bas, il va encore en tomber. Ma vue est trouble, mais j'aime voir les choses de cette époque. Cela est plus artistique et plus joli. Il se retire de la fenêtre et sort de son bureau pour aller dans sa cuisine pour se préparer du thé. L'horloge sonne 16h. Après avoir pris son thé, il retourne à son bureau et s'assoit. Voilà 20 ans que je vis complètement seul, dans cette maison entre mes livres et mon chien. 20 ans déjà que mon frère est mort. Pauvre Pierre. Allons, ne pensons plus au passé, c'est fini. Rassemblons les feuilles que nous avons tapées ce matin. Après, nous sortirons un peu avant la tombée de la neige. ferme la porte de sa maison et marche sur la route. C'est une petite route de campagne qui passe à travers champs. La neige a recouvert le paysage, mais l'on peut marcher sans difficulté sur la route car elle est molle et peu épaisse. Il marche à petits pas. Depuis mon enfance, je fais tous les jours ce trajet. Et notre famille a toujours vécu ici, la fourrinière de Claix. Mon père, qui tenait un magasin de tissus à Grenoble, trouvait agréable de vivre là, plutôt que dans une grande ville. Moi, je m'y suis habitué. Et puis pour un écrivain, ce qui compte, c'est d'être tranquille pour écrire. Tiens, il commence à neiger. Je vais rentrer. Le soir, après dîner, il retourne à son bureau, s'installe dans un fauteuil devant la cheminée et lit « La vie de Henri Boulard » de Stendhal. L'État devrait redonner le goût de la lecture aux gens. Or, parce que c'est le loisir le plus économique qui soit. Économie d'électricité. Et puis, nous vivons dans un monde trop visuel. L'on transforme toute notre communication par les yeux. Le moindre panneau d'information, telle défense de fumée, est représenté non pas par une phrase, mais par un dessin. L'on apprend trop aux enfants de se servir du visuel pour communiquer. Ceci est dangereux. Car en supprimant la lecture, l'on supprime l'esprit, c'est-à-dire le verbe qui dit verbe, dit création. Qui veut dire que la France, en n'appuyant pas son enseignement sur le verbe, perd pour l'avenir la créativité. Vouloir faire une société basée sur le visuel, c'est retourner en arrière avant le monde de l'écriture. Une communication qui n'est faite que par le verbe, la lecture, fait travailler le cerveau, lui donne un effort beaucoup plus grand qu'une communication visuelle. Et un cerveau qui a l'habitude de faire constamment des efforts créera plus facilement. Il ne sera pas engourdi. Allons, va. À quoi bon penser à cela? Laissons les gens devant leur télé à regarder leurs réclames. Pendant ce temps, moi je lis. Thank you. tape à la machine à écrire. Il est 10 heures. Il se lève pour aller ouvrir la porte. Il voit devant lui une dame d'une cinquantaine d'années, avec un manteau gris et un chapeau noir. Il est surpris de la voir. « Bonjour François, vous ne le reconnaissez pas ?» Il fait non de la tête. « Je suis Germaine, la fiancée de votre frère. Ai-je si changé que cela ? Vous, vous n'avez pas changé. Toujours aussi maigre. Oui, bien sûr, vos cheveux ont blanchi et vous avez pris quelques rides, mais cela vous va bien. » Il sort de sa torpeur. « Excusez-moi, Germaine, mais je n'y vois guère. Entrez, je vous prie. » Elle entre. C'est sombre ici. Je vois que rien n'a changé. Votre bureau est toujours ici à droite, la salle à manger à gauche, meuble Louis-Philippe. Elle ouvre la porte de la salle à manger. C'est bien ce que je disais. Je peux voir le bureau aussi. Il fait oui de la tête. Elle ouvre la porte et entre. Que d'olives poussiéreux et de paperasse. Vous vous servez encore de cette vieille machine à écrire? C'est avec cela que vous écrivez vos romans? Oui. Ils sortent du bureau. Le salon est là, et les chambres en haut. Vous voyez, depuis le temps, je me souviens de tout parfaitement. Vous devez être surpris de me voir. Après mon retour d'Amérique, j'ai souhaité revoir le lieu où mon enfance s'est définitivement interrompue. Puis-je m'asseoir? J'aimerais manger un petit quelque chose. Fait asseoir au salon et lui apporta le petit déjeuner avec du thé. Il s'assit à côté d'elle ensuite. Durant toutes ces années, je n'ai fait que revivre ce jour. Jules fille n'oublie pas le jour qui aurait pu être le plus beau jour de sa vie. Vous vous souvenez? La maison était pleine de monde. Oui, il se souvenait. Les portes et les fenêtres étaient ouvertes. Nous étions en septembre. Il faisait très chaud. Tout à coup, je me suis aperçu, au milieu de cette foule, que Pierre n'était plus à côté de moi. Il ne m'avait pas dit qu'il était monté se changer. Je me sentis seul et fragile au milieu de ce monde. Je me mis à sa recherche. C'était difficile de se frayer un chemin dans cette foule où chacun veut vous accaparer et vous sourire. Puis puis il y a votre mère qui m'avait pris le bras pour me présenter à des tas de gens. Si je n'avais pas été retenu, peut-être l'aurais-je plus vite retrouvé et évité le drame. Il pose sa torse et soupire. François se demande ce qu'elle est venue faire. Cet après-midi, je vais sur sa tombe. Ensuite, je prendrai le train jusqu'à Lyon et de là, je prendrai l'avion pour Oslo. Mon mari m'attend là-bas. L'après-midi, ils vont tous deux à pied au cimetière. La neige fond, le ciel est bleu, il fait doux. François se demande toujours pourquoi elle est revenue. Tout à coup, elle s'arrête de marcher et dit « Je n'ai jamais compris pourquoi, le jour de son mariage, faire cela. » Puis, elle se remet à marcher. Se souvient. Pierre, lui, leur enfance à courir dans les bois, les champs. Ils étaient toujours seuls avec leurs parents. Pierre était le plus grand de 5 ans. François aimait son frère d'un amour fou. C'était son idole. Le soir, dans leur chambre, ils lisaient ensemble des romans d'aventure. Et François s'imaginait toujours que le héros était son frère. Pierre avait promis que lorsque François aurait 15 ans, ils partiraient tous deux en Afrique pendant un mois. Le temps passait. Pierre allait au collège à Grenoble, mais n'était pas pensionnaire. François à l'école du village.
6 font 36, 6 fois 7 font 42, 6 fois 8 font 48, 6 fois 9
54.
Font 54.
54. 6 fois 10 font 60, 6 fois 11 font 66, 6 fois 12 font...
72. L'exercice est écrit au tableau. Vous avez tous vos crayons? Alors, ça n'est pas la peine de parler, Catherine. Bon, commencez. Allez.
François, 18 ans, et Pierre, 23. C'était à cette époque qu'un frère à leur mère vint habiter avec eux, Renaud de Timpré. C'était un homme de 30 ans, mince, avec de petites moustaches. Il venait d'être ruiné. Son entreprise n'avait pas supporté le coup de mai 68. Après avoir liquidé sa petite imprimerie lyonnaise, il demanda de l'aide à sa sœur, qui accepta de l'héberger. Cela ne la gênait pas, car la librairie de son mari était en pleine expansion. Pour François et Pierre, un inconnu dans la maison les gênait beaucoup. Ils avaient l'impression qu'on leur violait leur intimité. Mais l'homme les ignorait, ils restaient froids et secs. Thank you. côté de leur maison fut louée pour l'été une petite villa à des Parisiens, le père, la mère et la fille. La fille, Germaine, elle avait 20 ans et était belle comme une fleur printanière. Grande, mince, cheveux blonds, visage doré et souriant. Ces gens étaient très brillants et organisaient souvent d'interminables soirées qui empêchaient leurs voisins de dormir. François ne faisait guère attention à ses voisins tapageurs ou goût-criards. Il n'avait qu'une seule chose qui l'intéressait, c'était d'être auprès de son frère. Et puis son frère lui avait promis qu'il partirait en Afrique. Il fallait commencer à en parler sérieusement. Mais malheureusement, au fur et à mesure que les vacances approchaient, François s'apercevait que Pierre changeait. Il était plus discret lorsqu'ils étaient ensemble et passait des heures sans parler. Un soir, François l'aperçut en train de regarder la fête des voisins. Au village, lorsqu'il aperçut la jeune fille des voisins, il la dévisagea sans se soucier de François. Vint le père et la mère de Germaine pour inviter toute la famille à une de leurs soirées. Comme cela, ça compenserait la gêne que vous avez eue. Les parents refusèrent, mais ils le faisaient avec tant d'empressement qu'ils l'eurent accepté. Cela n'enchantait guère François. Et, le lendemain, toute la famille alla dans la villa, même l'oncle. Il y avait déjà beaucoup de monde. Après les salutations d'usage, la famille alla se mettre dans un coin tranquille. François s'ennuyait fier. Pierre semblait chercher quelque chose. Au bout d'une heure, Germaine s'approcha d'eux. Elle les salua et demanda s'ils n'avaient besoin de rien. Puis s'approcha des deux garçons et demanda lequel des deux voulut la faire danser. François refusa, mais Pierre accepta. Et c'est ainsi qu'ils firent connaissance. Ils dansèrent une grande partie de la nuit. François était furieux, et si François avait observé son oncle, il aurait vu que lui aussi les regardait d'une façon étrange. Après cette soirée, Pierre revit souvent Germaine. François était furieux de voir que son frère s'éloignait de lui. Adieu l'Afrique et tant d'autres rêves. Un jour, l'oncle demanda à François d'apporter une lettre à Germaine. Il accepta, mais avant de l'apporter, il la lut. Et vit que c'était une déclaration d'amour. Il la donna à sa destinatrice sans rien dire. Elle lut la lettre enfermée dans sa chambre. Chère mademoiselle, pardonnez cette lettre, mais dès l'instant où je vous ai vue, je me suis mis à vous aimer. Je serais très heureux si vous acceptiez un entretien avec moi. Oui, je sais, vous êtes très cotisé et entouré, mais ce ne sont que des gamins et moi je suis un homme. Je vous attendrai cet après-midi à 14h au carrefour du champ. Cette lettre surprit Germaine, surtout que le jeune homme ne lui avait jamais adressé la parole. Elle se souvint de sa silhouette et de son visage. Lui, au moins, c'était vraiment un homme. Elle fut flattée de cette déclaration et décida, pour voir, d'aller à ce rendez-vous. En début d'après-midi, elle prit sa bicyclette et partit en direction du carrefour du champ. T'es déjà là, assis sur le rebord du chemin. Lorsqu'il la vit, il se leva. Arrivée vers lui, elle descendit de bicyclette. Je suis heureux que vous soyez venu. Posez votre bicyclette dans l'herbe et asseyons-nous sur le talus. S'assirent et semblaient gênés tous deux. Mademoiselle, je vous aime et j'aimerais que nous vivions ensemble. Elle fut surprise par la rapidité des choses. Elle lui dit qu'elle était surprise de cette brusquerie et désirait partir. Pourquoi êtes-vous venu alors, si ce n'est pas pour rester avec moi? Vous êtes toutes les mêmes. Allumeuse, va. Devint toute rouge, se leva d'un bond. Il la retint par le bras. Je vais vous apprendre, moi, à aller avec les gens, petite garce. Il tira sur son bras pour la forcer à s'asseoir. Laissez-moi, vous me faites mal. Lâcha et mit sa tête dans ses mains. Elle courut son vélo et partit en vitesse. Elle avait le corps qui battait de peur et d'excitation. Pierre aimait Germaine, mais d'une façon gauche et timide, et il avait de la peine à la suivre, entourée de tous ses amis. Elle aussi avait une préférence pour lui, mais elle ne savait comment le lui dire. Il était différent, si différent des autres. Même dans les soirées, il restait à part. Il ne dansait qu'avec elle ou passait son temps à la regarder.
Du faisan, vous savez bien que pour moi, c'est toujours du faisan.
Bien sûr, madame.
François se retrouvait seul. Pierre n'était plus là pour séjourner. Il devint capricieux et mélancolique. Il aurait fait n'importe quoi pour que l'amour de son frère pour Germaine puisse disparaître. Après-midi, Germaine et Pierre se promenaient à vélo. Il faisait particulièrement chaud. Pierre fut pris d'un malaise et tomba de vélo. Germaine eut peur et alla à son secours. Il ne s'était pas fait mal, mais était engourdi. Elle se pencha vers lui. « Vous vous êtes fait mal ?»« Comme j'ai eu peur, Pierre. » Pierre restait allongé sans bouger. Il la voyait au-dessus de lui comme dans un rêve. Le regard qu'il avait était tellement mélancolique qu'elle se pencha encore pour lui embrasser les lèvres. Dans ce baiser, il ne la toucha ni ne bougea. Je vous aime, Germaine. Elle lui prit la main. Oui, je sais, Pierre, vous êtes gentil et si discret. Ils virent un homme approcher. Ils se levèrent et prirent leur vélo à la main et marchaient côte à côte. Depuis ce jour, Germaine et Pierre se voyaient de plus en plus souvent. Ils allaient se promener à la campagne. À Grenoble, au cinéma. Et ils s'enfermaient dans le salon des parents de Germaine pour jouer du piano. Germaine aimait profondément Pierre. Elle le trouvait doux et tendre. François devenait jaloux. Il les épiait comme une âme en peine. Un jour, l'oncle donna une lettre à François pour Germaine. Elle fut surprise car elle ne pensait plus à l'histoire de ce rendez-vous. Elle lut la lettre dans le jardin. C'était une lettre d'injures et de passion. L'oncle avait su que les deux familles allaient annoncer les fiançailles. Elle déchira la lettre.
Thank you.
soi, depuis qu'il savait que son frère allait se marier avec Germaine, il se mit à la détester à mort. Elle lui enlevait, son frère, tout ce qu'il aimait. Les deux frères couchaient dans la même chambre, le soir, ils lui faisaient des scènes terribles. « Je te dis que tu fais une bêtise, c'est une coquette. Fiche-moi la paix, tu es jaloux, c'est tout. » Renaud, de ne pas avoir reçu de réponse, ça le rendit taciturne et noir. Il était surtout furieux qu'elle le préférât à un jeune homme. Les fiançailles se firent dans une bonne ambiance. Seul François boudait. Il se demandait comment faire pour que le mariage n'eût pas lieu. Jour avant le mariage, Renaud annonça qu'il devait s'en aller. La famille lui dit qu'elle était déçue qu'il ne puisse pas assister au mariage. Mais en vérité, ils étaient satisfaits de le voir partir. Un jour, avant de s'en aller, il donna une lettre à François pour Germaine. François la prit et avant de la lui donner, il la lut. L'enveloppe n'avait pas été cachetée pour éviter les soupçons. Ma chère Germaine, je pars puisque je n'ai plus rien à faire ici. Pourtant, je vous aime toujours comme un fou. Vous ne le méritez pas, mon amour, car vous êtes une coquette et une allumeuse. Mais je vous pardonne car vous êtes encore bien jeune. Je veux vous revoir encore une fois. Si vous ne venez pas à mon rendez-vous, j'écrirai à Pierre que vous avez été ma maîtresse et c'est pour cela que je n'assiste pas au mariage. Que j'ai honte et peur pour mon neveu qui se marie avec une personne comme vous. Vous voyez, je pratique les grands moyens. Je désire tellement vous revoir et vous avoir que je suis prêt à toutes les folies. Même à celle de briser votre bonheur et celui de Pierre. Allons, faites un petit effort et venez mardi à Grenoble, hôtel Continental à 15h. Je vous veux dans mes bras, au moins une fois, sentir votre peau contre la mienne. Je vous aime, je suis fou d'amour. Si avant de partir je n'ai pas de réponse, j'écris à Pierre. Donnez la lettre à François, qui la remettra à la gare. Je vous aime. Après avoir lu cette lettre, elle comprit tout de suite que c'était la lettre d'un déséquilibré. Elle voulut en parler à Pierre. Puis après réflexion, elle se dit que Pierre était trop pur et naïf. Il risquait d'en souffrir. Elle décida d'écrire pour gagner du temps. Il donna rendez-vous à Renaud le mardi après son mariage. Comme cela, elle pourrait parler de cette histoire à Pierre et Pierre aurait la preuve qu'elle disait la vérité, puisqu'elle était vierge. Lettre faite, elle la donna à François pour qu'il la donnât à Renaud à son départ. Une heure avant son départ, Renaud voulut dire au revoir à des amis. Il prit sa voiture. Une heure après, l'on apprit que Renaud venait d'avoir un accident de voiture et était mort sur le coup. Germaine demanda à François de déchirer sa lettre. Le jour du mariage arriva. François et Pierre étaient tous les deux dans leur chambre à se préparer. La maison était déjà pleine de monde. Pendant qu'ils se préparaient, les deux frères parlaient. « Pierre, si je te donne la preuve que Germaine n'est pas digne de toi, tu te marieras encore avec elle ? Arrête avec cette histoire, veux-tu ? Alors, si je te prouve qu'elle, cela suffit, de toute façon tu n'as aucune preuve, tu es insupportable, je ne t'aime plus. Si je te la montre, cette preuve, tu continueras à m'aimer ? » Pierre ne répond pas. François va à son secrétaire pour sortir la lettre. Pierre prend la lettre. Il lit, horrifié. L'impression qu'il va s'évanouir. Il s'assoit sur le rebord du lit. Après avoir lu, il reste un long moment sans bouger. Son visage est pâle. François prend peur. Il s'approche. Non, va-t'en. Je ne l'ai pas fait exprès. Pardonne-moi, Pierre. Je ne voulais pas te faire de peine. J'ai fait cela parce que je voulais t'avoir. T'avoir à moi seul. Fous-moi le camp. François sort de la pièce en courant, en claquant la porte. Il descend les escaliers. Arrivé en bois, il voit dans la foule Germaine qui cherche Pierre. Tout à coup, un coup de feu. François remonte vers la chambre de Pierre. Il rencontre au passage les parents. Pierre, il est arrivé un malheur à Pierre. Les parents le suivent. La porte est fermée à clé. On frappe. Père de François, avec son épaule, fait sauter la serrure. François est allongé à travers du lit. Les yeux, la bouche ouverte. Une tache rouge sur la tempe droite. Sa main tient l'arme encore chaude. La lettre est à ses pieds. Les parents accourent. François, en cachette, prend la lettre et la met dans sa poche. La famille dit que le suicide était dû à une vieille dépression due au surmenage scolaire. Après le cimetière, Pierre emmène Germaine à la gare. Au revoir François, au revoir Germaine. Et elle monta dans le train, et l'autre train s'ébranla pour partir. Thank you. François est à son bureau et tape à la machine son dernier roman qui vient de finir. Comme toujours, c'est un roman d'amour. Un roman d'amour qui fait revivre inlassablement l'histoire de son frère et de Germaine. Il est incapable d'écrire autre chose. Ce qui change dans ses livres, ce sont les époques, les lieux, la façon dont est décrite l'histoire. L'histoire peut être vue par les yeux de Germaine, ou de Pierre, ou de François, ou de Renaud, ou d'un narrateur. Elle peut commencer par la fin ou le début. Ça peut être une énigme policière. Il en est à sa 12e adaptation et ses lecteurs en redemandent. Sa vie est une spirale sans fin qui fait revivre sa faute passée. Sa série L'écran radiophonique, Radio Canu vous a présenté un scénario original de Julien Jean-Pierre, La Spirale. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement.